Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour. Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Il est 19h01 et ce soir on va parler de quoi ? Ouh, j'ai l'impression qu'on a plein de petites brèves à vous raconter.
Alors c'est sûr, on a plein de petites brèves et puis on aura un petit sujet sur la dégradation des masses d'eau en Guadeloupe, figurez-vous.
Ensuite, on commencera ce Canu Info par de l'info locale avec l'amphisette qui a été expulsée ce matin.
Puis on se fera un, il faut que ça se sache, non ?
Ah bon ? Ouais ?
Ah ouais, je crois, ouais.
Ah ouais, super.
Avec, entre autres, cette histoire de hotspot au Rwanda pour pré-trier les réfugiés avant qu'ils arrivent en Europe.
Et puis on aura tout. Donc on va on va commencer par les brèves.
Hein. Ouais, ou alors commence par l'info locale.
On va commencer par l'info locale, hein. On va faire ça dans l'ordre qu'on fait pas d'habitude. Et c'est donc l'amphisède qui a été expulsé ce matin aux alentours de 11h30. Alors pourquoi 11h30 hein ? C'est parce que alors les soutiens de l'amphisède et les occupants et occupantes, donc les flics ont le droit d'expulser, on le rappelle, à partir de 6h du matin. Voilà, donc les gens se sont rassemblés sur plusieurs jours d'affilée là depuis lundi pour être prêt qu'il y ait un maximum de monde pendant l'expulsion et tenter d'empêcher, même si maintenant c'est de plus en plus compliqué. Bref, voilà. Et donc les flics ont choisi le moment, enfin se tenaient prêts, ont observé le moment où il y avait le moins de monde qui les soutenait. Et donc à 11h30, les gens commençaient forcément à partir. Bref, voilà pourquoi ils ont choisi cette heure-là. Pour le rappel, l'amphisède avait été ouvert en décembre 2007 suite à l'occupation de la fac de Lyon 2 par une bande de migrants, occupation qui a duré plusieurs semaines puis qui a fini par être expulsée. À la suite de ça, l'amphisède est ouvert et permet de loger les expulsés de la fac puis d'accueillir encore d'autres galériens dans ses locaux. Ils expulsent donc l'amphisède une semaine tout pile après avoir violemment expulsé un autre squat à Vaux-en-Velin qui avait pu servir de plan B à l'expulsion qui a eu lieu aujourd'hui. Le plan B proposé par la préfecture est, je cite, une aide au retour volontaire. De leur propre aveu, pas une seule personne des quelques 300 à 500 habitants n'ont accepté. Pas étonnant. Bref, il s'est passé plein de choses dans ce squat assez gigantesque, des moins drôles comme des plus chouettes. En tout cas, du côté de la préfecture, bien évidemment, on commente sur les insalubrités, les nuisances et ce qui dégénère. Mais de notre côté, on n'oublie pas qu'un bon nombre d'individus se sont organisés ensemble pour ouvrir, tenir et vivre dans ce lieu tant bien que mal, et que les emmerdes et les violences existent tout autant dans la rue, et qu'expulser cet endroit sans avoir permis aux habitantes de se trouver un plan B, c'est avoir la ferme volonté de renvoyer les gens dans les emmerdes et les violences de la rue en tentant de couper tout lien et solidarité. Pas sûr qu'ils y arrivent.
Canu Info. Du mercredi.
Allez, de la brève. Eh bien, écoutez, Jean-Paul Delevoye, vous voyez, qui est entré au gouvernement le 3 septembre en tant que haut-commissaire aux retraites. C'est donc lui qui va être chargé d'étudier très précisément et très techniquement où et comment il faudra qu'on travaille plus et plus longtemps pour gagner moins quand on sera à la retraite. Eh bien, ce Jean-Paul Delevoye va toucher son salaire de ministre, mais aussi ses pensions de retraite, puisqu'il faut quand même bien dire qu'il est vieux, il a 72 ans, je crois. Et comme la loi le permet de toute façon, hein, pour ce genre de personnes, Jean-Paul Delevoye cumule son salaire et ses pensions de retraite depuis qu'il est entré au gouvernement. Il perçoit pour sa retraite, il perçoit une rémunération brute mensuelle de 10 135 euros. Alors non, excusez-moi, ça c'est pas sa retraite, c'est son salaire. Et donc en plus de ça, il aura de toute façon sa retraite. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, c'est difficile de s'imaginer que ce bonhomme peut avoir une idée de la manière dont nous on vit, qu'on se... au moment où on est jeune, au moment où on est vieux, ou à quelques moments de la vie que ce soit.
Et on va faire un petit tour du côté du Chili, où plus de 4000 personnes ont manifesté dimanche pour le 46e anniversaire du coup d'État de Pinochet. Les manifestants réclamaient vérité et justice pour les 3000 assassinats et disparitions. Sur les 1200 cas de disparition, seules une centaine ont été élucidées. À la fin de la manif, les flics ont essuyé des jets de pierre répondant à coups de gaz et de matraques. 23 personnes ont été arrêtées.
Alors vous vous souvenez qu'on a eu des élections européennes, ça sert à élire, on sait jamais très précisément quoi, mais une sorte de gouvernement européen, la Commission européenne, là. Que sais-je encore? Eh bien, et une fois qu'on les a élus, par contre, ils mettent encore longtemps à former une commission. C'est parce que c'est des jeux compliqués d'alliance, etc. Mais alors aujourd'hui, le grec Margaritis Chinas, dont le pays nous dit 20 minutes, est en première ligne des arrivées de migrants en Europe, dont un des pays en première ligne. Ce grec, a obtenu le portefeuille de vice-président de la Commission européenne sur les migrations. Mais alors, c'est-à-dire que son portefeuille ne s'appelle pas migration, il s'appelle, dans l'intitulé, on parle de protéger notre mode de vie européen. C'est comme ça qu'on appelle la vice-présidence à la migration. Alors, en faisant le lien entre migration et protection du mode de vie européen, Ursula von der Leyen, qui est la nouvelle présidente de la Commission européenne, a suscité de vives réactions hier. Mais son entourage la défend en disant « La protection de notre mode de vie européen, ça fait référence aux valeurs européennes, c'est-à-dire la tolérance, l'accueil, l'asile. » Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Alors en fait, c'est effectivement certain qu'en choisissant la formule pour définir ce que fera ce vice-président, l'idée était très certainement d'ouvrir les frontières à qui voudrait venir, ce qui serait la moindre des choses si on prend au sérieux les mots de tolérance, accueil, asile. Bon, notez bien quand même que toutes les crapules de gauche de cette Commission européenne, tous les députés européens de gauche qui se sont indignés de cette dénomination, il y en a quand même aucun parmi eux qui envisagerait plus que la droite d'ouvrir ces frontières de merde.
Canu Info.
À moi. Alors, la Guadeloupe subit une dégradation généralisée des masses d'eau. C'est ce que nous dit le directeur adjoint de l'Office de l'eau de Guadeloupe en commentant un rapport sur l'état des nappes souterraines, des rivières et de la mer que l'AFP s'est procuré mardi. Le constat est plus... Le constat le plus alarmant du rapport est l'augmentation de la salinité de la nappe d'eau douce souterraine située sous la Grande Terre. Et pour cause, l'intensité de l'utilisation de la nappe, notamment par des forages d'alimentation en eau potable, mais aussi par les pollutions d'origine agricole, pesticides et composés azotés, c'est tout ça qui fait ça. Côté mer, les algues se nourrissent de nutriments. Qui se nourrissent de nutriments favorisent l'eutrophisation, qui est un déséquilibre qui provoque une trop forte croissance des plantes. La responsabilité en incombe principalement aux réseaux d'assainissement et aux stations d'épuration qui ne sont pas mises en conformité et tout finit dans la mer. Donc les barrières de corail se retrouvent en danger, bon ça on le sait, ça fait un moment, mais voilà, c'est aussi dû à l'eau qui vient de la terre. Seule la masse d'eau des Saintes est classée comme étant en bon état biologique. Toutes les autres sont en état moyen, voire médiocre. L'état des rivières s'est aussi altéré. Lors d'une étude semblable qui avait été réalisée de 2011 à 2013, l'état physico-chimique des cours d'eau était classé de bon à très bon, plus rarement médiocre ou moyen. Aujourd'hui, en 2019, tout s'est dégradé et plus aucune rivière parmi celles qui sont surveillées n'est en très bon état. Et pour cause, la présence de chlordécone, un pesticide utilisé dans les années 90. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de chlordécone. C'est un machin qui a été interdit dans le monde entier, sauf en Guadeloupe. Alors que le monde entier savait que c'était hyper mortel, mais que les députés français trouvaient que, ma foi, en Guadeloupe, ça permettait de produire des bananes. Eux, ils connaissaient plutôt les gens qui tiraient de la thune des bananes que les gens qui mouraient à cause du chlordécone. Et donc, ça a été utilisé énormément plus longtemps en Guadeloupe que dans le reste du monde. Donc, c'est ça qui continue à empoisonner la Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en conclusion, pour l'Office de l'eau, c'est l'activité humaine qui est responsable de cette dégradation. L'agriculture et l'assainissement en pointe dans une moindre mesure, l'industrie, bref, en Guadeloupe comme ailleurs.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, eh bien, voilà. Le portable de Steve a envoyé un signal à la borne relais de l'opérateur quelques minutes après l'intervention policière.
Alors, on voit bien de quel Steve il s'agit.
Et oui, c'est de Steve qui est mort le jour de la fête de la musique à Nantes, suite à l'intervention des flics et la fête de la musique à Nantes qui avait lieu sur, en tout cas pour une partie d'entre elles, en tout cas celle-là, pour sur une bordure de quai. Ce qui veut dire concrètement, alors déjà techniquement, tous les téléphones connectés au réseau mobile envoient à intervalle régulé un signal pour chercher la borne la plus proche. C'est pourquoi que dans ce type d'enquête, en général pour savoir un peu retracer le parcours d'une personne, on cherche aux bornes relais. Ensuite, pourquoi c'est important? Car ça permet d'écarter l'hypothèse qui aurait voulu que Steve soit tombé dans l'eau avant l'intervention des flics, et donc il n'y a pas de rapport entre les deux, ce qui aurait permis de blanchir les flics, le préfet et tout ça. Comme la plupart des téléphones ne résistent pas à l'eau et que de toute façon on ne capte pas dans l'eau, et qu'en plus un ami de Steve a témoigné pour dire qu'il avait laissé son pote allongé près du quai quelques minutes avant l'intervention, bref, voilà, en gros l'idée n'est plus de déterminer si Steve est mort suite à l'intervention des flics, mais qui sont les responsables de l'opération qui a conduit à la mort de Steve dans la chaîne de commandement. Voilà, donc petite parenthèse hein, pour Nantes, hein, la manif gilet jaune nationale de ce samedi aura lieu à Nantes avec comme toile de fond la mort de Steve et François de Rugy qui est originaire de là-bas et qui était avant président de la métropole de Nantes. Contrairement à d'habitude, la manif n'aura pas lieu en centre-ville, mais dans, je cite, une zone bourgeoise peu habituée aux manifs. Bref, affaire à suivre et les appels à manifester se multiplient. Et en fait, on va passer à la rubrique. Il faut que ça sache, mais on n'a pas le générique.
Ah, c'était donc pour ça. Et eh bien alors voilà, le Rwanda va accueillir des réfugiés africains, africaines qui sont pour l'instant coincés en Libye. Alors voilà, on a l'habitude dans ce Canu Info, le Canu Info du mercredi, mais il faut bien dire aussi souvent chez nos camarades des autres jours, de savoir assez bien ce qu'on pense et ce qu'on doit penser des événements qu'on vous raconte, et puis de savoir ce qu'il faut que vous pensiez d'ailleurs, et la plupart du temps on se gêne pas vraiment pour vous le dire. Et bien figurez-vous que c'est pas le cas pour ceux dont je vais vous parler. Maintenant, j'ai fouillé un peu internet cet après-midi pour me faire une opinion et j'y suis pas arrivé du tout. Alors je vous raconte un peu ce que j'ai trouvé. Pardon. Et mes questions, celles auxquelles j'ai pas de réponse. Et puis pour une fois, bah écoutez, démerdez-vous, je vous laisse tomber. Faites-vous une opinion vous-même. Et alors ça, vous n'êtes pas habitué à ça en écoutant Canu, mais là, courage, vous allez y arriver. Le Canu Info, c'est quand même plus que c'était. Alors j'arrive au fait. Le Rwanda a donc signé hier un accord avec l'Union africaine et le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, donc le HCR, pas du tout l'Union européenne. Là, c'est vraiment le Rwanda, l'Union africaine et le HCR. Un accord en vue d'accueillir temporairement des réfugiés et demandeurs d'asile africains bloqués en Libye. Alors, cette histoire, l'origine de cet accord remonte à 2017. Vous vous souvenez peut-être sans doute de ces images qui avaient été diffusées par CNN et qui montraient un marché aux esclaves en Libye. Des images qui avaient quand même circulé dans le monde entier, qui avaient vraiment choqué le monde entier. Et donc c'était des migrants qui avaient été attrapés en Libye et qui étaient vendus comme esclaves sur une place du marché, quoi. L'Europe à l'époque avait fait les gros yeux, mais quand même pas trop, parce qu'il faut bien dire que c'est elle qui finance et qui forme les flics, les milices et les gardes-côtes libyens qui organisent la mise en esclavage des migrants et migrantes qui cherchent à accéder à la Méditerranée par la Libye. Donc ça c'était l'Europe qui avait fait « Ouh, c'est pas bien, là ». Mais alors, pour le coup, le président rwandais, Paul Kagame, avait réagi tout autrement. Il avait directement proposé d'accueillir certains et certaines de ces migrants et migrantes. Alors, il a quand même fallu 2 ans pour mettre quelque chose en place, et c'est même pas encore tout à fait terminé. Bon, enfin, le projet existe, cette fois-ci, on sait assez bien comment il va fonctionner, techniquement on sait. C'est prêt, les infrastructures demandent encore quelques travaux, mais ça a l'air quand même d'être vraiment quasiment bouclé. En tout cas, dans les prochaines semaines, un premier groupe de 500 personnes devrait être trimballé de Libye au Rwanda. Et donc l'idée, c'est d'accueillir jusqu'à 30 000 personnes, mais par groupe de 500. Et après, on ne sait pas à quelle fréquence les groupes arriveraient. Quand ces personnes arrivent au Rwanda, elles seront hébergées dans un centre. Alors c'est un centre qui existe déjà au Rwanda, qui avait été monté en 2015 pour accueillir déjà en 2015 des réfugiés, pour le coup, du pays voisin, du Burundi. C'était à l'époque où il y avait cette fameuse histoire de campagne électorale ou pas campagne électorale, représentation ou non représentation du président au-delà de son deuxième mandat, le président de Nkurunziza. À l'époque, on vous en avait beaucoup parlé dans ce Canu Info. En tout cas, c'était un moment où le Burundi était un pays où on mourait beaucoup. Et donc, plein de gens s'étaient barrés au Rwanda. Et à ce moment-là, le Rwanda avait construit, entre autres, ce centre. Bon voilà, entre-temps, on ne sait pas bien ce que sont devenus les Burundais, mais une partie est restée au Rwanda, une partie est sans doute rentrée au Burundi, en tout cas le centre est vide. Alors voilà, et c'est donc là que devraient être hébergés ces gens. Mais alors hébergés, quand on dit hébergés, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Eh bien, je dois dire qu'en fouillant Internet, alors vraiment du Figaro à Info Migrant et en passant par la presse rwandaise, impossible de savoir si ces gens pourront entrer et sortir du centre comme ils et elles le voudront, ou si ça fonctionnera plutôt comme une sorte de centre fermé, de centre de rétention. On sait qu'ils dormiront là-bas, on ne sait pas s'il y aura des barreaux autour du centre. La question suivante, c'est de savoir par quelle porte les gens sortiront de ce centre quand ils en sortiront définitivement. Et là, alors la bosse du HCR au Rwanda nous dit ceci, ouvrez les guillemets, une fois les migrants arrivés sur place, nous procéderons à leur évaluation administrative afin de trouver une solution au cas par cas. En fonction de leur parcours et de leur vulnérabilité, il pourra leur être proposé une réinstallation dans un pays tiers ou dans un pays où ils ont déjà obtenu l'asile avant de se rendre en Libye, enfin, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais aussi un retour volontaire dans leur pays d'origine quand les conditions pour un rapatriement dans la sécurité et la dignité seront réunies. Bon, elle parle de retour volontaire, mais après elle dit quand les conditions pour un rapatriement dans la sécurité et la dignité seront réunies, est-ce que vraiment c'est les migrants, migrantes eux-mêmes, elles-mêmes qui décideront si les conditions de sécurité sont réunies ? Tout ça est quand même pas hyper, hyper clair. Et puis, certaines pourront, s'il n'y a pas d'autre solution, rester au Rwanda. Et alors, le Rwanda, c'est un pays où il y a actuellement plus de 149 000 réfugiés, dans un pays qui est quand même minuscule, dont la population est de 12 millions d'habitants, et en plus 12 millions d'habitants serrés, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays où il y a de la place au niveau espace, vraiment, au niveau kilomètre carré. Et alors, le secrétaire du ministère chargé de la gestion des situations d'urgence au Rwanda, Olivier Kayumba, nous dit que, dit à la presse rwandaise, et en l'occurrence, non pas la presse rwandaise, mais au site Info Migrants, les Rwandais sont habitués à vivre en harmonie avec les réfugiés. Bon, ils ont une histoire qui pourrait expliquer que c'est peut-être bien vrai. Grâce à la mise en place d'une stratégie d'inclusion, les enfants des réfugiés vont à l'école avec les locaux. Les communautés d'accueil incluent aussi les réfugiés dans le système d'assurance maladie et d'accès à l'emploi. Alors, on pourrait avoir plutôt tendance à le croire, d'autant plus qu'une partie non négligeable des Rwandais ont été réfugiés parfois pendant une, deux, trois générations avant de pouvoir revenir au Rwanda. Et du coup, qu'il y ait une sorte de culture comme ça, ça paraîtrait pas fou. Alors, et après, il reste une autre question, c'est celle des motivations du gouvernement rwandais. Et selon la réponse à cette question, bien sûr, on pourrait déjà avoir une indication de la manière dont seront réellement traitées ces personnes redéplacées, on pourrait dire. Le président rwandais, Paul Kagame, c'est un bonhomme qui est quand même un bonhomme un peu complexe. Alors, un vieux président qui n'a jamais quitté le pouvoir depuis... je ne sais plus. C'est pas lui tout de suite qui a été au pouvoir après le génocide de 1994, mais enfin, il y est arrivé assez vite. Et de toute façon, même quand il n'était pas président juste après le génocide, ça avait quand même été le chef de l'armée qui avait vaincu les génocidaires. De toute façon, même quand il n'était pas nommé président, en réalité, c'était déjà lui qui gouvernait. Mais voilà, c'est aussi le bonhomme qui a commandé cette armée, qui a stoppé le génocide. C'est aussi, depuis 1994, celui qui gouverne ce pays, où il a en quelque sorte fallu forcer la population à la réconciliation. Autant vous dire que ça ne s'est pas fait que dans un grand essor de liberté démocratique. Et en même temps, c'était une situation tellement dingue que on ne sait pas trop ce qu'il aurait fallu faire, ou qui aurait pu faire quoi, ou qu'est-ce qui aurait été malin. En tout cas, c'est certainement un président autoritaire, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi le président qui a mené ce un peu minuscule pays d'Afrique sur le chemin du miracle économique. C'est-à-dire que c'est un président qui a été réélu, et pour le coup, sans tricherie, jusqu'à maintenant, parce que les gens sont aussi hyper contents, parce que le Rwanda, c'est un pays où les gens sont de plus en plus riches réellement et rapidement. C'est complètement un businessman, et c'est aussi complètement un requin de la politique. C'est vraiment un gars qui est capable de faire des coups en douce. Bien que là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir, mais le gouvernement rwandais a été le premier pays au monde, me semble-t-il, à avoir une parité entre les ministres hommes et les ministres femmes. Alors voilà, en tout cas, pour autant qu'on puisse se faire une idée, c'est tout à fait possible que, réellement, venant de Paul Kagame, l'indignation devant le traitement des migrants et migrantes en Libye soit réellement à la base de la démarche. On peut imaginer que c'est vrai, ça semble pas complètement fou. Mais alors, c'est largement aussi possible qu'il existe derrière tout ça une sorte de deal crapuleux dans les coulisses de la scène internationale. Un truc où il en retire que sais-je, qu'il aurait négocié avec qui sais-je. Ceci dit, une chose est certaine, qui a complètement intérêt à cet accord qui vient d'être signé, c'est l'Europe et c'est la France. Qui, alors, pour l'instant, se sont gardés, bien gardés, de dire quoi que ce soit sur cet accord, d'en parler en aucune manière, d'avoir la moindre réaction officielle d'un quelconque ministre, ou même sous-arrière-secrétaire de je ne sais quoi. Là, tout le monde moule. Mais en tout cas, c'est les gens qui sont hyper gagnants dans cette histoire, puisque l'Europe et la France, on sait bien, leur but, c'est par-dessus tout d'empêcher les Africains et Africaines de mettre le pied sur le sol européen, et à peu près quels que soient les moyens, ou presque quels que soient les moyens. Ça, on voit bien ces histoires d'empêchement, de sauvetage en mer, de laisser les gens se noyer et de faire toutes les misères du monde à qui essayerait de les sauver. Alors, les Italiens font ça, mais en réalité, le reste de l'Europe le fait aussi. Hein. On a parlé mille fois.
Et à qui on confie, la rétention des migrants, c'est à la Libye. Quoi.
C'est ça. Et alors voilà, c'est effectivement que, du coup, on confie ça à la Libye. Mais si on pouvait se passer de certains des moyens d'empêcher les Africains d'arriver, de certains de ces moyens qui sont trop ignobles et trop voyants, bah quand même... on pourrait préférer, en tout cas, ne pas trop faire exister ça en une sorte d'arrière-fond de dégueulasserie de l'Europe. Et quand je dis « on », je parle des gouvernements européens. Et du coup, les prisons libyennes, avec leur torture, leur viol, leur marché aux esclaves, ça finit quand même, pour le coup, depuis 2 ou 3 ans, que c'est vraiment mis en lumière par des tonnes de gens, de journalistes, d'ONG, etc. Ça finit par être vraiment trop ignoble et trop voyant. Du coup... sur ce coup-là, l'Europe doit une sacrée fière chandelle à Kagame. Alors après, il y a quand même encore autre chose qui est aussi certain, c'est que pour les migrants qui sont en Libye aujourd'hui, eh ben, tout vaut mieux que de rester en Libye, puisque pour eux, c'est vraiment, eux et elles, c'est vraiment l'enfer, la Libye. Et que, quelle que soit la manière dont ça se passe au Rwanda, le jour du départ de Tripoli, le jour où ils vont, où il et elle vont monter dans l'avion, ça, ça sera un jour de fête.
Eh bien, il est 19h24.
Oh là 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 là.
On a fini ce Canu Info avec pas mal d'avance. Normalement, vous retrouverez Idées Noires à la suite des bandes continues pendant 35 minutes.
Alors vous retrouverez Idées Noires pendant une heure, mais à la suite de 35
minutes.
Oui, c'est
ça. Oui, voilà, merci. Merci des éclaircissements. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve a priori pas la semaine prochaine.
Ouais, on dirait bien.
Mais dans 15 jours.
Ouais, on essaiera de tenir au moins jusqu'à 19h30.
Allez. Et ben, bonne rentrée à vous. Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.